Vous avez certainement pu observer une grande différence entre la réflexion habituelle sans phosphène et une réflexion effectuée avec phosphène. Comme nous l'avons vu, les premières idées qui s'imposent sont le plus souvent des idées que l'on a déjà eues auparavant. Mais elles sont mieux organisées et s'insèrent dans un contexte beaucoup plus logique. On a l'impression qu'elles trouvent leur place naturelle et donnent une vision synthétique nouvelle. C'est tellement flagrant que cela paraît évident. Ce sentiment d'évidence est un phénomène typiquement phosphénique qui laisse le sentiment que la réflexion s'est faite sans aucun effort. Pourtant, si l'on compare, cette réflexion apporte davantage d'idées qu'une réflexion habituelle dans le même laps de temps. La démarche logique, le raisonnement sont de bien meilleure qualité et l'on peut aussi, en général, observer une ou deux idées nouvelles, ce qui n'est qu'un début. La qualité des idées est également meilleure que d'habitude.
Si vous avez beaucoup écrit, vous pouvez certainement aussi observer le phénomène suivant. Comparez le début et la fin de vos notes. L'écriture, le dessin des lettres, est-elle la même du début à la fin? On s'aperçoit en effet qu'il y a une sensible différence. Le début des notes est souvent appliqué, régulier, un peu empreint de la nécessité de rédiger. La fin, par contre, est beaucoup plus souple, moins appliquée. Mais on s'aperçoit que c'est un peu avant ce changement de graphisme de l'écriture que les idées commencent à affluer. Entre le début et la fin se trouvent des passages intermédiaires, bien délimités, soit par l'écriture, soit par le style, qui peut également évoluer au fil de la réflexion. On observe généralement que les idées qui viennent alors constituent à la fois une meilleure synthèse et une meilleure analyse du sujet traité, et que les idées nouvelles sont plus nombreuses.
Cette évolution de l'écriture s'explique par le fait que l'énergie stimulée dans le cerveau par la lumière s'imprègne dans l'ensemble de la masse cérébrale, mais il y a un petit temps de latence avant que l'énergie provoquée par le mixage se soit complètement répandue dans le système nerveux, et notamment vers le système moteur. C'est pourquoi les idées s'organisent avant que l'effet se fasse sentir sur l'écriture, donc sur la motricité. La pensée profite du phosphène un peu avant le geste. Les enfants dysorthographiques rattrapent rapidement leur retard en écrivant sous phosphène. Les enfants dyslexiques font aussi des progrès considérables en lisant à haute voix sous phosphène, car qui dit action sur la motricité dit amélioration de la prononciation. Avec un travail régulier, les problèmes de dyslexie et de dysorthographie disparaissent complètement grâce à cette régularisation de l'influx nerveux. Cela ouvre également d'intéressantes applications du mixage phosphénique dans les disciplines physiques et sportives, car les mouvements sont effectués avec une plus grande précision et l'étude des mouvements physiques sous phosphène permet d'obtenir une plus grande résistance nerveuse.
Pour développer l'idéation et la créativité des enfants, un excellent exercice consiste à leur faire raconter une histoire sous phosphène. Cela se fait bien sûr sous forme de jeu. L'enfant fait un phosphène et cherche le thème de son histoire. Puis, il décrit les idées qui lui viennent, construisant ainsi son récit. Si plusieurs enfants jouent ensemble, chacun peut, à son tour, le temps d'un phosphène, ajouter des éléments et des péripéties à l'histoire, ce qui constitue un excellent entraînement pour apprendre à s'exprimer et à argumenter en public, donc à ne plus craindre de parler en classe. Ce travail est très important. Il va permettre à l'enfant d'être beaucoup plus créatif au niveau de ses pensées et va le préparer au travail qui lui sera demandé en rédaction.
Technique du mixage en cascade pour augmenter la capacité d'idéation. Puisque les phosphènes permettent d'obtenir des idées mieux organisées, ainsi que des idées nouvelles, vous pouvez les utiliser directement pour rédiger une rédaction, une dissertation ou un devoir. Pour accélérer un peu plus le processus de l'idéation, on pratiquera le mixage en cascade. Celui-ci s'effectue en mixant tout d'abord le thème au phosphène, soit en le répétant mentalement pendant la fixation et toute la durée du phosphène, soit en le synthétisant sous la forme d'une image mentale. Il est également possible de mixer une pensée à la fois visuelle et auditive. Si le thème est une pensée abstraite, on pratique de la même façon, car une pensée abstraite est nécessairement représentée par une pensée visuelle ou auditive. Il n'y a donc pas de différence avec les autres types du thème. Puis, comme précédemment, vous laisserez les idées venir et les noterez pour ne pas les perdre. Il arrive qu'on ne perçoive aucune idée, mais, en général, le fait de ne pas avoir d'idée vient surtout de ce que l'on n'accepte pas celle qui s'impose spontanément, ou encore, c'est que l'on fait un effort pour obtenir un résultat, ce qui crée une tension qui empêche de bien observer ce qui vient à l'esprit. Par conséquent, s'il ne vient aucune idée, vous recommencerez la même opération. Les idées peuvent venir sous forme d'une réflexion auditive ou sous la forme d'images mentales, souvent aussi les deux à la fois. Il faut tenir compte de ces images mentales car elles sont porteuses de nuances souvent très fines. Si plusieurs idées sont apparues, ce sera la plus nette d'entre elles que vous mixerez dans un second phosphène, pendant la fixation et toute la durée du phosphène. Le plus souvent, le nombre d'idées est plus grand que pour le premier phosphène. Là encore, vous les noterez toutes et choisirez à nouveau la plus nette pour la mixer au phosphène suivant. Le nombre d'idées sera plus important encore et elles seront de plus en plus riches. Vous pratiquerez donc ce mixage en cascade jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'idées et des idées intéressantes pour réaliser votre devoir. On s'aperçoit souvent que le plan est pratiquement établi par l'ordre dans lequel les idées sont apparues, ou que celles-ci montrent une progression qui demande peu de réaménagement pour achever le plan. Mais, si besoin est, vous pouvez créer votre plan en repensant dans un ou plusieurs phosphènes aux idées que vous avez sélectionnées et à la manière de les organiser. Le mixage en cascade consiste donc à mixer l'idée la plus nette dans le phosphène qui suit.
Technique des questions en cascade dans l'acouphène. Pour conduire une réflexion dans l'acouphène, on peut laisser venir les pensées, comme nous l'avons déjà vu, ou encore poser des questions en cascade. La modalité de travail est très simple, et là encore, nous utiliserons les processus rythmiques du cerveau en pratiquant de la manière suivante. En écoutant l'acouphène, il va s'agir de poser une question mentalement, en s'imaginant entendre la question plus particulièrement d'un côté, par exemple à droite, puis de reporter son attention de l'autre côté, avec l'idée d'attendre la réponse. Il faut donc être disponible à toute idée pouvant surgir. Le temps d'observation doit être à peu près de même durée que celui que l'on a mis pour poser la question. S'il ne vient aucune idée, on repose la même question de l'autre côté et en reportant à nouveau son attention à l'opposé. On observe s'il vient une éventuelle réponse. Au bout de peu de temps, une idée viendra, apportant au moins un élément de réponse à la question. Ou bien la question sera spontanément reformulée autrement. C'est alors que cette nouvelle idée, que l'on mixera dans l'acouphène, du côté où l'on avait posé la question, et l'on reprend le va-et-vient de l'observation et de la répétition de la question, jusqu'à obtenir une nouvelle idée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait suffisamment d'éléments sur le sujet que l'on souhaiterait développer. Là encore, vous pouvez parfaitement associer phosphène et acouphène, en faisant un phosphène avant de travailler avec l'acouphène. Les phosphènes comme l'acouphène accélèrent la rapidité de réflexion, produisant une meilleure organisation des idées et en font surgir un plus grand nombre, sans tension ni perte de temps. Il est donc important de travailler systématiquement avec les phosphènes lorsque l'on a à réfléchir, quel que soit le sujet de réflexion. On peut donc pratiquer le mixage, et en particulier le mixage en cascade pour une lettre pour laquelle les arguments manquent, pour un projet que l'on souhaite développer, pour un problème que l'on a du mal à cerner, et pour toute réflexion en général. Lorsque l'on souhaite plutôt travailler sur des domaines artistiques ou de créativité, comme la réalisation d'un tableau, d'une sculpture, ou encore d'un plan d'architecture, on peut bien sûr, dans ce cas, ne mixer que des images mentales, puisqu'il s'agit d'œuvres plutôt visuelles. Pour la création musicale, on mixera naturellement la représentation auditive du son d'un ou plusieurs instruments de musique, ce qui permet de créer et de développer des morceaux, de faciliter la composition musicale. Là non plus, il n'y a pas de limite aux applications du mixage phosphénique. Pour tout ce qui concerne le développement de l'idéation et de la créativité intellectuelle et artistique. En ce moment, il y a peut-être un projet que vous souhaiteriez mener à bien, ou une difficulté que vous rencontrez dans la conduite de votre vie en général, d'ordre privé ou professionnel. Réfléchissez-y quelques instants. Et arrêtez votre magnétophone pour cela. Dès que vous aurez trouvé votre thème de réflexion, vous reprendrez l'écoute de cette cassette. Vous y êtes? Vous allez refaire un phosphène. Fixez votre lampe. Elle doit commencer à devenir bleutée. Vous pouvez l'éteindre. Mettez votre bandeau. Bouchez-vous les oreilles. Et repensez à votre thème de réflexion avec l'idée que vous y repensez du côté droit. Maintenant, reportez votre attention du côté gauche, avec l'idée d'entendre comme quelque chose qui viendrait du côté gauche. Et laissez venir à vous les pensées, les idées, les réflexions. Si vous avez eu une idée intéressante, notez-la sur une feuille de papier. puis reportez de nouveau votre attention du côté droit et repensez à votre thème de réflexion avec l'idée que vous y repensez à droite tout en écoutant le bourdonnement d'oreille du côté droit. Maintenant, repassez du côté gauche et observez simplement les idées, les pensées qui vous traversent la tête. De nouveau, repassez du côté droit. Pensez à votre réflexion, à votre préoccupation. Efforcez-vous de bien la formuler, mentalement, intérieurement. Passez maintenant à gauche et laissez venir à vous les idées, les impressions. Notez sur votre feuille les idées qui vous sont venues. Vous pouvez pour cela arrêter quelques instants votre magnétophone. Vous le remettrez en marche dès que vous aurez fini de noter. Nous allons refaire un phosphène. Rallumez votre lampe. Pendant la fixation, repensez à votre réflexion, à votre problème. Vous pouvez éteindre votre lampe. N'oubliez pas de mettre le bandeau sur vos yeux. Bouchez-vous les oreilles et posez-vous une question en rapport évidemment avec votre réflexion. Posez-vous une question du côté droit avec l'idée que vous vous posez cette question dans l'acouphène de droite. Maintenant, reportez votre attention à gauche, un peu avec l'idée que vous souhaiteriez trouver une solution à votre question. Laissez venir à vous les idées, les impressions, même les sensations. Dernière fois, reportez votre attention à droite et posez-vous une question, toujours en rapport avec le thème. Puis reportez votre attention à gauche en écoutant le bourdonnement d'oreille et laissez venir à vous les pensées. Fin de l'exercice.
Toutes ces techniques permettent de développer une très grande créativité. Réécoutez leurs descriptions et utilisez-les lorsque vous aurez un devoir à faire ou simplement pour réfléchir à des préoccupations quotidiennes. Choisissez une technique qui convient au travail que vous avez à réaliser. Si vous rencontrez une difficulté dans votre étude, une autre technique vous permettra de la surmonter. Nous vous conseillons de réécouter et de refaire ces exercices. Fin de la quatrième étape, suite sur la face B.
Étude des mathématiques avec les phosphènes. Puisque les phosphènes ont une si grande influence sur l'organisation des idées et sur la logique, on peut particulièrement les utiliser pour leur raisonnement mathématique. Première technique. La première chose à faire est de lire plusieurs fois attentivement les données du problème sous phosphène, puis de fixer la lampe pendant une trentaine de secondes, comme d'habitude. Après extinction de la lampe, on observe le phosphène sans plus penser au problème, mais en observant les idées qui surviennent. Il n'est pas rare qu'un élément de réponse surgisse ainsi, ou même le raisonnement à suivre, au tout début du phosphène.
Deuxième technique. Une variante consiste à réfléchir au problème pendant cette fois-ci 3 minutes de fixation environ, puis d'observer de façon passive le phosphène, comme précédemment, en attendant les idées. Certains enfants préfèrent la première technique, d'autres ont une préférence pour la seconde. Dans les deux cas, on s'aperçoit assez vite que l'enfant a une meilleure compréhension de ses cours de mathématiques et que ses résultats scolaires s'améliorent rapidement.
Troisième technique, avec cette fois l'aide de l'acouphène. Lire plusieurs fois le problème, attentivement, puis se boucher les oreilles et observer l'acouphène sans plus réfléchir au problème. Se laisser aller à ses pensées sans effort. Lorsqu'une idée liée au problème survient, il faut absolument la noter pour ne pas la perdre. Puis, en gardant cette idée à l'esprit, on reprend l'observation de l'acouphène, et ainsi de suite. L'avantage de l'acouphène est que l'on peut l'utiliser là où l'on ne peut pas faire de fausses veines, en classe par exemple, pendant un devoir.
Pour apprendre les tables de multiplication, il sera plus simple d'utiliser la fonction rythmique du cerveau comme cela se faisait autrefois. Les enfants apprenaient leurs tables en les rythmant. C'est un moyen pratique et efficace de les retenir et il est dommage que cette façon d'apprendre ait été abandonnée car elle donnait d'excellents résultats. Ce n'est pas retourner en arrière que d'employer le rythme car nous avons vu que l'apprentissage rythmé entraîne le développement de la mémoire et de toute la personnalité. L'enfant lira donc plusieurs fois la première partie d'une table de multiplication, puis fera un fausse-fen en commençant à réciter à voix haute. Après avoir éteint, il continuera ainsi pendant toute la durée du fausse-fen. Lorsqu'il connaîtra bien cette partie, il continuera avec la suivante de la même façon, en faisant en sorte de bien rythmer sa répétition. Par exemple, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5, 30, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5, 30, et ainsi de suite. C'est certainement ainsi que vos parents et vos grands-parents ont appris la table de multiplication et l'alphabet, tel que cela se faisait autrefois.
L'acouphène est particulièrement intéressant pour ce type d'apprentissage. En effet, tout en écoutant l'acouphène, en se bouchant les oreilles, on peut s'imaginer entendre les facteurs d'un côté, comme si on les entendait, par exemple, de l'oreille gauche, et l'on reporte son attention de l'autre côté pour émettre le résultat, comme si on l'entendait du côté droit. Puis, on passe au facteur suivant à gauche, le résultat à droite, et ainsi de suite, de façon assez rythmée, même si le débit n'est pas rapide. Que les facteurs et les résultats soient émis mentalement à droite ou à gauche n'a aucune importance en soi. Par contre, ce qui est important, c'est que les facteurs soient tous émis du même côté et les résultats tous de l'autre côté. En pratiquant ainsi, on respecte le fonctionnement rythmique de la pensée et l'on mémorise plus facilement.
Pour apprendre des formules de mathématiques, les étudiants utilisent à la fois le mixage d'une image mentale et d'une pensée auditive. Il suffit pour cela d'imaginer la formule écrite dans le fausse-fen. Dans le cas d'une formule assez courte, on l'imagine inscrite à l'intérieur du fausse-fen tout en la répétant mentalement, mais aussi, de temps en temps, à voix haute. En général, deux ou trois fausse-fen suffisent pour bien graver la formule dans la mémoire. Si la formule est longue et complexe, on la découpe en plusieurs parties très courtes que l'on mixera chacune à part dans un fausse-fen. Lisez tout d'abord, plusieurs fois sous fausse-fen, la formule complète. Puis, découpez-la en plusieurs parties très courtes. Relisez plusieurs fois la première partie de la formule en la répétant tout haut, puis mentalement. Ensuite, en visualisant cette première partie, répétez-la mentalement ou à voix haute pendant la fixation et durant la présence du fausse-fen. Alternez répétition vocale et mentale. Si cette première partie est difficile, refaites un fausse-fen en reprenant le même processus jusqu'à ce que vous la sachiez parfaitement. Lorsque vous l'avez bien en tête, refaites un fausse-fen et écrivez-la plusieurs fois sur une feuille, de manière à faire travailler la mémoire musculaire. Relisez le début de la formule jusqu'à la seconde partie que vous allez mixer. Puis, vous ne relisez plusieurs fois que la seconde partie et à voix haute. Faites un nouveau phosphène en imaginant cette seconde partie inscrite dans le phosphène, tout en continuant à la répéter pendant la fixation et pendant les 3 minutes de présence du phosphène. Refaites autant de phosphène que nécessaire jusqu'à bien connaître cette partie. Ensuite, reprenez la lecture des 2 premières parties que vous avez étudiées et mixez-les ensemble dans le phosphène suivant, de manière à bien connaître leur enchaînement. N'hésitez pas à les écrire plusieurs fois d'affilée. Là aussi, selon le degré de difficulté, vous aurez tout avantage à refaire plusieurs phosphènes. Puis, vous referez la même opération avec les autres parties de la formule jusqu'à bien connaître chaque partie, mais aussi jusqu'à connaître l'enchaînement complet. Cette découpe est bien sûr valable pour de très longues formules, comme celles sur lesquelles travaillent les étudiants en physique et en chimie, ou les techniciens et les ingénieurs. Mais on peut aussi utiliser ce tronçonnement dès que l'on a des difficultés pour apprendre, quelle que soit la matière. Cela facilite et améliore tous les aspects de la mémoire, et de plus, déborde sur les matières que l'on n'étudie pas sous phosphène, bien qu'il soit plus efficace d'utiliser les phosphènes pour toutes les matières que l'on a à étudier.
Mixage dans le phosphène entretenu. Quelle que soit la difficulté de l'étude et sa complexité, que ce soit pour une longue formule, un tableau, une carte ou un schéma, l'étudiant pourra mieux encore enraciner l'objet de son étude dans la mémoire, en travaillant avec le phosphène entretenu. Une forme de mixage qui accroît la netteté et la densité de la pensée, au point de la rapprocher de la vision. Beaucoup d'étudiants nous disent que, durant les examens, ils ont eu l'impression d'avoir leur cours sous les yeux, tant le souvenir des différentes matières était net, clair et précis. Là encore, ce mode de mixage permet de réaliser un gain de temps et d'énergie considérable. Pour obtenir un phosphène entretenu, il suffit d'allumer et d'éteindre la lampe très régulièrement. Il est important de garder le regard immobile, bien fixé au centre de la lampe. L'idéal, après avoir étudié le sujet comme d'habitude avec les phosphènes, serait de se placer dans la pièce, dans l'obscurité, sans mettre le bandeau, puis d'allumer la lampe à phosphène pendant 2 secondes en pensant au sujet, et éteindre durant 2 secondes en continuant à garder le thème de l'étude à l'esprit, et ainsi de suite. On peut travailler ainsi durant 1/4 d'heure d'affilée. L'image mentale s'enrichit et devient de plus en plus précise au fil des phosphènes. Cependant, certaines personnes éprouvent une difficulté à passer brusquement de l'obscurité à la lumière. Elles ont de ce fait du mal à garder les yeux immobiles et n'arrivent pas à conserver le thème de leur étude à l'esprit, car leur attention est sans cesse détournée vers l'éclairage, l'extinction et l'adaptation à la lumière. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de laisser une lampe d'ambiance allumée. Ainsi, le passage de l'obscurité à la lumière est moins brutal, ce qui permet d'être attentif aux détails qui surviennent dans la pensée et enrichissent l'objet de l'étude.
Afin d'observer les effets du phosphène entretenu sur l'intensité de la pensée, vous allez en faire l'expérience. Choisissez un élément de votre étude particulièrement difficile à apprendre, que ce soit un texte, une carte, un tableau ou un schéma. Vous utiliserez une des modalités suivantes après avoir déterminé si vous passez facilement de l'obscurité à la lumière ou si vous avez besoin de conserver un éclairage ambiant.
Première modalité. Étudiez plusieurs fois votre sujet sous phosphène, comme vous en avez maintenant l'habitude. Arrêtez votre magnétophone afin d'étudier votre sujet sous phosphène. Vous venez d'étudier votre sujet sous phosphène. Mettez maintenant la pièce en obscurité. Vous chercherez à retrouver les éléments de l'étude tout en allumant votre lampe toutes les 2 secondes. N'oubliez pas de bien conserver le regard immobile vers la lampe. Munissez-vous de votre télécommande que vous actionnerez à chaque claquement. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Continuez ainsi. Et en même temps que vous allumez et que vous éteignez votre lampe, continuez librement à penser à votre étude. vous venez de faire votre étude avec le superphosphène, aidé par le claquement du métronome. Vous allez maintenant continuer votre étude, mais seul. Habituez-vous à allumer et éteindre votre lampe toutes les 2 secondes. Arrêtez maintenant votre magnétophone. Vous reprendrez la suite des exercices quand vous aurez un peu l'habitude d'allumer et d'éteindre votre lampe toutes les 2 secondes, tout en repensant au sujet de votre étude. Seconde modalité. Reprenez les mêmes conditions, mais conservez allumé un éclairage autre que votre lampe à phosphène. Ainsi, vous pourrez regarder votre livre ou votre cahier de temps en temps. Arrêtez maintenant votre magnétophone pour faire cette expérience. Troisième modalité. Prenez un temps d'éclairage d'environ 5 secondes et un temps d'extinction d'environ 10 secondes. Nous allons faire ensemble cette expérience. Munissez-vous de votre télécommande que vous actionnerez à chaque fois que je vous dirai stop. Bien évidemment, vous continuez à repenser à votre étude en même temps que l'extinction et l'allumage de la lampe. Allumez. Éteignez. Allumez. Éteignez. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Allumez, éteignez. Top, allumé. Top, éteignez. Top, allumé. Top, éteignez. Top. 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 Stop. 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 Maintenant, continuez seul sur ce mode. 5 secondes d'allumage, 10 secondes d'extinction. Vous reprendrez l'écoute de cette cassette dans un petit moment. Quatrième modalité. Vous êtes maintenant habitué et entraîné à allumer et à éteindre votre lampe, tout en continuant à repenser au sujet de votre étude. Dans cette quatrième modalité, le temps d'allumage sera de 10 secondes et le temps d'extinction d'environ 30 secondes. Entraînez-vous quelque temps à faire cet exercice, 10 secondes d'allumage et environ 30 secondes d'extinction. Réécoutez plusieurs fois la description des techniques que nous venons de voir. Essayez-les tour à tour au fil de votre étude et appliquez-les selon les difficultés et la complexité de vos cours. Elles vous en faciliteront grandement l'assimilation. Fin de la cinquième étape.